Livre des nombres. Étude sur le chapitre 9. Et l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte, disant, « Que les fils d'Israël fassent aussi la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la ferez selon tous ses statuts et selon toutes ses ordonnances. » Et Moïse dit aux fils d'Israël de faire la Pâque. Et ils firent la Pâque le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, au désert de Sinaï, selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ainsi firent les fils d'Israël. Versets 1 à 5. Il y a trois endroits distincts où nous voyons célébrer cette grande fête de rédemption, savoir en Égypte, Exode 12, dans le désert, Nombre 9, et dans la terre de Canaan, Josué 5. La rédemption se trouve à la base de tout ce qui a rapport à l'histoire du peuple de Dieu. Doit-il être délivré de la servitude, de la mort et des ténèbres de l'Égypte? C'est par la rédemption. Doit-il être porté à travers toutes les difficultés et tous les dangers du désert? C'est sur le principe de la rédemption. Doit-il marcher à travers les ruines des murs menaçants de Jéricho et mettre ses pieds sur le cou des rois de Canaan? C'est en vertu de la rédemption. Ainsi, le sang de l'agneau pascal rencontra l'Israël de Dieu au milieu de la profonde dégradation du pays d'Égypte et l'en délivra. Il le trouva dans le désert aride au travers duquel il le conduisit. Il fut avec lui à son entrée dans la terre de Canaan et l'y établit. En un mot, le sang de l'agneau rencontra le peuple en Égypte, l'accompagna à travers le désert et le fixa en Canaan. Il était le fondement béni de toutes les voies de Dieu envers eux, en eux et avec eux. Était-il question du jugement de Dieu contre l'Égypte? Le sang de l'agneau les en mettait à couvert. Était-il question des besoins sans nombre du désert? Le sang de l'agneau était le gage sûr et certain d'une victoire complète et glorieuse. Du moment que nous contemplons Jéhovah venant agir en faveur de son peuple en vertu du sang de l'agneau, tout est infailliblement garanti du commencement à la fin. Toute la durée de ce mystérieux et merveilleux voyage depuis les fours abrites de l'Égypte jusqu'aux collines couvertes de vignes et aux riches plaines de la Palestine ne servit qu'à prouver et qu'à montrer les vertus variées du sang de l'agneau. Cependant, ce chapitre-ci nous présente la Pâque entièrement au point de vue du désert. Et cela expliquera au lecteur pourquoi il y est fait mention de la circonstance suivante, « Et il y eut des hommes qui étaient impurs à cause du corps mort d'un homme et qui ne pouvaient pas faire la Pâque ce jour-là. Et ils se présentèrent ce jour-là devant Moïse et devant Aaron, verset 6. » Il y avait là une difficulté pratique, quelque chose d'anormal, comme on dit, un cas imprévu. C'est pourquoi la question fut soumise à Moïse et à Aaron. Ils se présentèrent devant Moïse, le représentant des droits de Dieu, et devant Aaron, le représentant des ressources de la grâce de Dieu. Il semble y avoir quelque chose de particulier et de grave dans la manière dont il est fait allusion à ces deux fonctionnaires. Les deux éléments dont ils étaient l'expression apparaissent comme très importants pour la solution d'une difficulté telle que celle qui s'offrait ici. Et ces hommes lui dirent, « Nous sommes impurs à cause du corps mort d'un homme. Pourquoi serions-nous exclus de présenter l'offrande de l'Éternel au temps fixé au milieu des fils d'Israël ?» Verset 7. La souillure était entièrement avouée. Et la question soulevée était celle-ci. Devait-il être absolument privé du saint privilège de venir devant l'Éternel? N'y avait-il aucune ressource pour un pareil cas et ne pouvait-on pas y pourvoir? Question extrêmement intéressante, assurément, mais à laquelle cependant aucune réponse n'avait été donnée. Nous n'avons pas de cas semblable prévu dans l'institution originelle en Exode 12, quoique nous y trouvions un exposé complet de tous les rites et de toutes les cérémonies de la fête. C'était pour le désert que le développement de cette question avait été réservé. C'était dans la marche, à l'heure actuelle, du peuple, dans les détails réels et pratiques de la vie du désert, que se présentait la difficulté à résoudre. Voilà pourquoi le récit de toute cette affaire est fort à propos donné dans les Nombres qui sont le livre du désert. Et Moïse leur dit, tenez-vous là et j'entendrai ce que l'Éternel commandera à votre égard, verset 8. Belle attitude. Moïse n'avait pas de réponse à donner, mais il savait qu'il pouvait le faire et c'est à lui qu'il s'adresse. C'était la chose la meilleure et la plus sage que Moïse eut à faire. Il ne prétendait pas pouvoir répondre, il n'avait pas honte de dire « je ne sais pas ». Malgré toute sa sagesse et toute sa connaissance, il n'hésitait pas à déclarer son ignorance. C'est la vraie connaissance, la vraie sagesse. Il pouvait être humiliant pour un homme dans la position de Moïse de paraître aux yeux de la congrégation ou de quelques-uns de ses membres ignorants sur un sujet quelconque. Lui qui avait mené le peuple hors d'Égypte, qui l'avait conduit à travers la mer Rouge, qui avait conversé avec Jéhovah et qui avait reçu sa mission du grand « Je suis », serait-il possible qu'il fût incapable de répondre à une difficulté surgissant d'un cas aussi simple que celui qu'il avait alors devant lui? Était-il donc vrai qu'un homme tel que Moïse ignora la juste marche à suivre vis-à-vis de personnes qui avaient été souillées pour un mort? Combien il en est peu qui, n'occupant pourtant point la position élevée de Moïse, n'eussent pas essayé de résoudre d'une manière ou d'une autre une telle question. Mais Moïse était l'homme le plus doux de toute la terre. Il savait très bien qu'il ne devait pas avoir la présomption de parler quand il n'avait rien à dire. Si nous suivions plus fidèlement son exemple en cela, nous éviterions beaucoup d'affirmations hasardées, bien des méprises ou des erreurs. En outre, cela nous rendrait beaucoup plus vrais, plus simples et plus naturels. Nous sommes souvent assez insensés pour avoir honte de montrer notre ignorance. Nous nous imaginons follement que nous portons atteinte à notre réputation de sagesse et d'intelligence quand nous prononçons ce beau jugement qui exprime si bien une vraie grandeur morale. Je ne sais pas. C'est une complète erreur. Nous attacherons toujours beaucoup plus de poids et d'importance aux paroles d'un homme qui ne prétend jamais à une connaissance qu'il ne possède point, tandis que nous ne serons pas disposés à écouter un homme toujours prompt à parler avec une frivole confiance en lui-même. Oh, marchons en tout temps selon l'esprit de ces belles paroles, tenez-vous là et j'entendrai ce que l'Éternel commandera. Et l'Éternel parla à Moïse disant, parle aux fils d'Israël en disant, si un homme d'entre vous ou de votre postérité est impur à cause d'un corps mort ou est en voyage au loin, il fera la Pâque à l'Éternel. Ils la feront le second mois, le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Deux grandes vérités fondamentales sont exposées dans la Pâque, savoir la rédemption et l'unité du peuple de Dieu. Ces vérités sont invariables. Rien ne saurait les détruire. Il peut y avoir chute et infidélité sous des formes variées, mais ces glorieuses vérités de la rédemption éternelle et de la parfaite unité du peuple de Dieu conservent toute leur force et toute leur valeur. Voilà pourquoi cette ordonnance, qui représentait si vivement ces vérités, était continuellement obligatoire. Les circonstances ne devaient pas en empêcher l'exécution. La mort ou la distance ne devaient pas l'interrompre. Si un homme d'entre vous ou de votre postérité est impur à cause d'un corps mort ou est en voyage au loin, il fera la Pâque à l'Éternel. Il était en effet si urgent pour chaque membre de la congrégation de célébrer cette fête qu'une mesure spéciale dans ce but est prise dans le chapitre 9 des Nombres pour ceux qui n'étaient pas en état de l'observer selon l'ordre prescrit. Ces personnes devaient l'observer le 14e jour du second mois. Ainsi, la grâce pourvoyait au cas inévitable de mort ou d'éloignement. Si le lecteur veut chercher le chapitre 30 du deuxième livre des Chroniques, il verra qu'Ézéchias et la congrégation avec lui profitèrent de cette miséricordieuse ressource. Il s'assembla à Jérusalem une grande multitude de peuples pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois, une très grande congrégation, etc. Et on égorgea la Pâque le 14e jour du second mois, verset 13-15. La grâce de Dieu peut nous rencontrer dans la plus grande faiblesse, pourvu que nous la sentions et que nous la confessions. Un renvoi. Le lecteur remarquera avec intérêt et profit le contraste qui existe entre la manière d'agir d'Ézéchias en 2 Chroniques 30 et celle de Jéroboam en 1 Roi 12, verset 32. Le premier usa de la ressource fournie par la grâce divine. Le second suivit son propre dessein. Le second mois était permis par Dieu, le huitième fut inventé par l'homme. Les prévoyances divines satisfaisant aux besoins de l'homme et les inventions humaines s'opposant à la parole de Dieu sont des choses totalement différentes. Je reprends. Mais que cette vérité très précieuse ne nous fasse pas traiter légèrement le péché ou la souillure. Quoique la grâce permît le second mois au lieu du premier, elle ne tolérait pour cela aucun relâchement dans les ordonnances et dans les cérémonies de la fête. Les pains sans levain et les herbes amères devaient toujours avoir leur place. La chair d'aucun sacrifice ne devait être conservée jusqu'au matin et pas un os de la victime ne devait être brisé. Dieu ne peut nullement tolérer l'abaissement de la règle de la vérité ou de la sainteté. L'homme, par la faiblesse, le manquement ou l'influence des circonstances, pourrait être en retard. Mais il ne doit pas rester au-dessous de la règle divine. La grâce permet le premier cas, la sainteté défend le second. Et si quelqu'un eût trop présumé de la grâce pour se dispenser de la sainteté, il aurait été retranché de l'assemblée. Cela ne nous dit-il rien. Nous devons toujours nous rappeler, en lisant les pages de ce merveilleux livre des Nombres, que les choses qui arrivaient à Israël sont des types pour nous, et que c'est pour nous à la fois un devoir et un privilège de nous attacher à ces types et de chercher à comprendre les leçons qu'ils sont destinés à nous enseigner de la part de Dieu. Qu'est-ce donc que nous apprennent les règlements relatifs à la célébration de la Pâque au second mois? Pourquoi était-il spécialement enjoint à Israël de n'omettre aucune cérémonie dans cette occasion particulière? Pourquoi est-ce dans ce neuvième chapitre des Nombres que les directions pour le second mois se trouvent beaucoup plus détaillées que celles pour le premier? Ce n'est certainement pas que l'ordonnance fut plus importante dans un cas que dans l'autre, car son importance au jugement de Dieu était toujours la même. Ce n'est pas non plus qu'il y eut en aucun cas une ombre de différence dans l'ordre, vu qu'il était aussi toujours le même. Néanmoins, le lecteur qui méditera sur ce chapitre sera frappé du fait que lorsqu'il est question de la célébration de la Pâque au premier mois, nous lisons simplement ces mots « Vous la ferez selon tous ses statuts et selon toutes ses ordonnances ». Mais d'un autre côté, quand il s'agit de second mois, nous avons un énoncé plus détaillé de ce qu'étaient ses ordonnances et ses cérémonies. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en casseront pas un os. Ils la feront selon tous les statuts de la Pâque. Comparez le verset 3 avec les versets 11. Que nous enseigne donc ce simple fait, demandons-nous? Nous croyons qu'il nous enseigne très clairement que nous ne devons jamais abaisser la règle dans les choses de Dieu à cause de la chute et de la faiblesse du peuple de Dieu. Mais que plutôt, pour cette raison même, nous devons prendre un soin particulier de tenir élevée la bannière dans toute sa divine intégrité. Sans doute, il devrait y avoir le sentiment profond de la chute, et plus il serait profond, mieux cela serait. Mais on ne doit pas sacrifier la vérité de Dieu. Nous pouvons toujours compter avec assurance sur les ressources de la grâce divine, tout en cherchant à maintenir, avec une fermeté inébranlable, l'étendard de la vérité de Dieu. Cherchons à en garder toujours le souvenir dans nos pensées et dans nos cœurs. D'un côté, nous sommes en danger d'oublier que la chute a eu lieu, oui, une grande chute, l'infidélité et le péché. Et d'un autre côté, nous risquons d'oublier l'infaillible fidélité de Dieu en vue de cette chute et en dépit de tout. L'Église professante est tombée, elle est dans une ruine complète. Et non seulement elle, mais nous-mêmes, individuellement, nous avons failli et contribué à la ruine. Nous devrions sentir tout ça, le sentir profondément, le sentir constamment. Nous devrions avoir toujours dans notre esprit, devant notre Dieu, la conscience intime et humiliante de la manière triste et honteuse dont nous nous sommes conduits dans la maison de Dieu. Nous ne ferions qu'ajouter extrêmement à notre chute si nous oublions jamais que nous sommes tombés. Ce qu'il nous convient d'avoir, c'est une profonde humilité et un esprit vraiment brisé en nous souvenant de toutes ces choses. Ces sentiments et ces exercices intérieurs s'exprimeront nécessairement par une marche et une conduite humbles au milieu de la scène où nous vivons. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens et, qu'ils se retirent de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. De Timothée 2, verset 19. Voilà la ressource du fidèle en présence des ruines de la chrétienté. Dieu ne fait jamais défaut, il ne change pas. Et nous avons simplement à nous retirer de l'iniquité et à nous tenir collés à lui. Nous devons faire ce qui est droit, le poursuivre diligemment et lui abandonner les conséquences. Nous conjurons le lecteur de donner toute son attention aux pensées qui précèdent. Nous désirons qu'il s'arrête quelques instants et qu'il considère tout ce sujet avec un esprit de prière. Nous sommes convaincus que le sérieux examen que nous ferions de ces deux faces nous aiderait grandement à trouver notre chemin au milieu des ruines qui nous entourent. Le souvenir de la condition de l'Église et de notre infidélité individuelle nous garderait dans l'humilité, tandis qu'en même temps, la connaissance de la règle invariable de Dieu et de son immuable fidélité nous détacherait du mal qui nous environne et nous maintiendrait fermes dans le sentier de la séparation. Les deux choses réunies nous préserveraient efficacement d'une vaine prétention d'un côté, du relâchement et de l'indifférence de l'autre. Nous devons toujours nous souvenir de ce fait humiliant que nous sommes déchus, tout en nous attachant à cette grande vérité que Dieu est fidèle. Ce sont les leçons par excellence du désert, leçons pour les jours actuels, leçons pour nous. Elles sont suggérées très fortement par le récit particulier au livre des Nombres, le grand livre du désert. C'est dans le désert que la chute de l'humanité se manifeste si pleinement. C'est dans le désert aussi que les ressources infinies de la grâce divine sont déployées. Mais répétons encore cette assertion, et puisse-t-elle être gravée en caractère ineffaçable dans nos cœurs, les plus riches provisions de la grâce et de la miséricorde divine ne donnent aucun motif quelconque pour abaisser la règle de la vérité de Dieu. Si quelqu'un avait allégué comme excuse la souillure ou l'absence pour ne pas célébrer la Pâque ou pour le faire d'une manière autre que Dieu ne l'avait ordonné, il eût assurément été retranché de la congrégation. Et de même pour nous, si nous consentons à abandonner une vérité quelconque de Dieu parce que la chute s'est produite, si par pure incrédulité du cœur nous faisons des concessions aux dépens de la vérité de Dieu, nous abandonnons le terrain de Dieu. Si nous prenons l'état des choses qui nous entourent comme excuse pour secouer l'autorité de la vérité de Dieu de dessus notre conscience, ou pour nous soustraire à son influence sur notre conduite et sur notre caractère, il est très évident que notre communion sera interrompue. Un renvoi que l'on note une fois pour toutes que le retranchement d'un membre de la congrégation d'Israël répond aujourd'hui au retranchement d'un croyant de la communion à cause d'un péché non jugé. Je reprends. Nous poursuivrions volontiers ce grand courant pratique de vérité, mais nous devons nous en abstenir et clore cette partie de notre sujet en citant pour le lecteur le reste de cet exposé sur la Pâque pour le désert. Mais l'homme qui est pur et qui n'est pas en voyage, qui s'abstient de faire la Pâque, cette âme sera retranchée de ses peuples car il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme portera son péché. Et si un étranger séjourne chez vous et veut faire la Pâque à l'Éternel, il la fera ainsi, selon le statut de la Pâque et selon son ordonnance. Il y aura un même statut pour vous, tant pour l'étranger que pour l'Israélite de naissance. Verset 13-14. L'oubli volontaire de la Pâque aurait dénoté, de la part des Israélites, un manque total d'estime pour les avantages et les bénédictions qui découlaient de la rédemption et de la délivrance du pays d'Égypte. Plus quelqu'un réalisait profondément ce qui avait été accompli dans cette nuit mémorable où l'assemblée d'Israël trouva son refuge et son repos à l'abri du sang, plus aussi il soupirait ardemment après le retour du 14e jour du premier mois dans lequel il pouvait faire la commémoration de cette glorieuse circonstance. Et si quoi que ce soit l'eût empêché de jouir de cette ordonnance du premier mois, il profitait avec d'autant plus de bonheur et de reconnaissance du second mois. Mais l'homme qui se serait contenté de continuer d'année en année à ne pas célébrer la Pâque eût montré que son cœur était bien éloigné du Dieu d'Israël. Il eût été plus qu'inutile de lui parler d'aimer le Dieu de ses pères et de jouir des bénédictions de la rédemption, quand l'ordonnance même que Dieu avait établie pour représenter cette rédemption était négligée d'année en année. Et ne pouvons-nous pas, jusqu'à un certain point, nous appliquer tout cela en rapport avec la scène du Seigneur? Sans doute, nous le pouvons, et même avec un très grand profit pour nos âmes. Il y a cette connexion entre la Pâque et la scène, savoir que la première était le type et la seconde le mémorial de la mort du Christ. Ainsi, nous lisons dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Notre Pâque, Christ, a été sacrifié. » Cette phrase établit le rapport. La Pâque était le mémorial du rachat d'Israël de l'esclavage d'Égypte et la scène du Seigneur est le mémorial de la rédemption de l'Église de l'esclavage plus lourd et plus ténébreux du péché et de Satan. Aussi, comme on aurait sûrement vu chaque vrai et fidèle Israélite faire la Pâque à l'époque fixée selon toutes les ordonnances et les cérémonies de cette fête, de même on verra chaque vrai et fidèle chrétien célébrer la scène du Seigneur au jour déterminé et selon tous les principes qui s'y rapportent et qui sont exposés dans le Nouveau Testament. Si un Israélite avait négligé la Pâque, même dans une seule occasion, il aurait été retranché de la congrégation. Une telle négligence ne devait pas être tolérée dans l'Assemblée d'Israël. Elle aurait immédiatement attiré le jugement de Dieu. Or, en face de ce fait solennel, ne pouvons-nous pas demander « Mais ce rien maintenant est une affaire de peu d'importance pour des chrétiens que de négliger de semaine en semaine et de mois en mois la scène de leur Seigneur ? Pouvons-nous supposer que celui qui, en nombre 9, déclarait que l'Israélite négligerait la Pâque serait retranché, ne tient pas compte de la négligence du chrétien pour la table du Seigneur ? Assurément non. Car, quoiqu'il ne s'agisse pas d'être retranché de l'Église de Dieu, du corps de Christ, cela autorise-t-il notre négligence? Loin de nous cette pensée. Ce fait devrait plutôt avoir pour effet béni de nous animer d'une plus grande diligence dans la célébration de cette précieuse fête dans laquelle nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. Pour un pieux Israélite, il n'y avait rien de plus beau que la Pâque parce qu'elle était le mémorial de sa rédemption. Et pour un chrétien pieux, il n'y a rien de plus beau que la scène parce qu'elle est le mémorial de sa rédemption et de la mort de son Seigneur. De tous les services auxquels le chrétien peut se livrer, il n'est rien de plus précieux, rien de plus expressif, rien qui place Christ d'une manière plus touchante et plus solennelle devant son cœur que la scène du Seigneur. Il peut chanter la mort du Seigneur, il peut prier à son sujet, il peut en lire le récit, il peut en entendre parler, mais c'est seulement dans la scène qu'il l'annonce. Et ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, la coupe aussi, après le souper, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Luc 22, verset 19-20. Ici, nous avons l'institution de la fête, et quand nous en venons aux actes des apôtres, nous lisons « Le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain. » Acte 20, verset 7. Là, nous avons la célébration de la fête. Et enfin, quand nous ouvrons les épîtres, nous lisons « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. » 1 Corinthiens 10, verset 16-17. Et encore, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe aussi après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 23-26. Nous avons ici la fête expliquée, et ne pouvons-nous pas dire que dans l'institution, la célébration et l'explication, Nous avons, pour lier nos âmes à cette précieuse fête, une corde triple qui ne se rompt pas vite. Ecclésiaste 4, verset 12. Comment se peut-il donc qu'en face de toute cette sainte autorité, on trouve quelques chrétiens qui négligent la table du Seigneur? Ou bien, en envisageant ce fait sous un autre aspect, d'où vient que des membres de Christ peuvent passer des semaines et des mois, ou même toute leur vie, sans jamais se souvenir de leur Seigneur, conformément à son vœu direct et positif? Nous savons que quelques chrétiens professants considèrent la scène comme un retour aux ordonnances judaïques et comme une déchéance de la position élevée de l'Église. Ils envisagent la scène et le baptême comme des mystères spirituels intérieurs, et ils croient que nous nous écartons de la vraie spiritualité en insistant sur l'observation littérale de ces ordonnances. À tout cela, nous répondons tout simplement que Dieu est plus sage que nous. Si Christ a institué la scène, si le Saint-Esprit a conduit l'Église primitive à la célébrer, et s'il nous l'a aussi expliqué, qui sommes-nous pour mettre nos idées en opposition avec Dieu? Sans doute, la scène du Seigneur devrait être un mystère spirituel intérieur pour tous ceux qui y participent. Mais elle est aussi un acte extérieur, littéral, palpable. Il y a littéralement du pain et du vin, une manducation littérale et une boisson littérale. Si l'on nie cela, autant vaudrait nier aussi qu'il y ait littéralement une assemblée réunie. Nous n'avons pas le droit d'expliquer l'Écriture d'une telle façon. C'est pour nous un devoir saint et béni de nous soumettre à l'Écriture, de nous incliner absolument et implicitement sous sa divine autorité. Ce n'est d'ailleurs pas seulement une question de soumission à l'autorité de l'Écriture. Ce dernier point, nous l'avons certes abondamment prouvé par de nombreuses citations du livre divin, ce qui seul est amplement suffisant pour tout esprit pieux. Mais il y a plus que cela. Il y a dans le cœur du chrétien une réponse d'amour correspondant à l'amour du cœur de Christ. N'est-ce rien cela? Ne devrions-nous pas chercher, au moins en quelque mesure, à répondre à l'amour d'un tel cœur? Si notre adorable Seigneur a réellement institué le pain et le vin dans la scène comme mémorial de son corps rompu et de son sang répandu, il a ordonné que nous mangions de ce pain et que nous buvions de cette coupe en mémoire de lui, ne devrions-nous pas, dans la puissance de l'affection, répondre au désir de son cœur affectueux? Assurément, aucun chrétien sérieux ne le mettra en doute. Ce devrait toujours être une joie pour nos cœurs que d'entourer la table de notre Seigneur, de nous souvenir de lui selon son institution, d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-il pas merveilleux de penser qu'il ait voulu occuper une place dans le souvenir de cœurs tels que les nôtres? Or, il en est ainsi, et ce serait vraiment triste si, pour un motif quelconque, nous négligions cette fête à laquelle il a attaché son nom précieux. Ce n'est naturellement pas ici le lieu d'entrer dans une exposition détaillée de l'ordonnance de la scène du Seigneur. Ce que nous désirons surtout, c'est d'insister auprès du lecteur chrétien sur l'immense importance et le profond intérêt de l'ordonnance quant au double principe de la soumission à l'autorité de l'Écriture et d'un amour correspondant à celui de Christ lui-même. De plus, nous voudrions faire vivement sentir à tous ceux qui peuvent lire ces lignes la gravité qu'il y a à négliger de prendre la scène selon les Écritures. Nous pouvons être assurés que c'est toujours un principe dangereux de chercher à mettre de côté cette institution positive de notre Seigneur et Maître. Cela dénote un bien mauvais état d'âme. Cela prouve que la conscience n'est pas soumise à l'autorité de la parole et que le cœur n'est pas dans une vraie sympathie avec les affections de Christ. Appliquons-nous donc à nous acquitter de notre sainte responsabilité vis-à-vis de la table du Seigneur, à ne pas négliger d'observer la fête, à la célébrer conformément à l'ordre établi par le Saint-Esprit. Voilà pour ce qui regarde la Pâque dans le désert et les leçons frappantes qu'elle fournit à nos âmes. Nous nous arrêterons maintenant quelques instants sur le dernier paragraphe de notre chapitre qui a son caractère aussi marqué qu'aucune autre portion du livre. Nous y contemplons une nombreuse troupe d'hommes, de femmes et d'enfants voyageant à travers un vaste désert où il n'y avait pas de chemin. Franchissant une contrée aride, un immense désert sablonneux, sans boussole et sans guide humain. Quelle pensée, quel spectacle! Il y avait là des millions d'êtres s'avançant sans aucune connaissance de la route qu'ils devaient suivre, dépendant entièrement de Dieu pour la conduite comme pour la nourriture et pour tout le reste. Une armée de pèlerins tout à fait sans ressources. Ils ne pouvaient former aucun plan pour le lendemain. Quand ils étaient campés, ils ne savaient pas quand ils devraient marcher. Et quand ils étaient en marche, ils ne savaient pas où ils feraient halte, ni quand ils la feraient. Leur vie était une vie de dépendance journalière et de chaque heure. Ils devaient regarder en haut pour être guidés. Leurs mouvements étaient réglés par les roues du chariot de Jéhovah. C'était vraiment là un merveilleux spectacle. Lisons-en le récit et retenons-en dans nos âmes les célestes enseignements. Et le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle et la tente du témoignage, et elle était le soir sur le tabernacle comme l'apparence du feu jusqu'au matin. Il en fut ainsi continuellement. La nuée le couvrait, et la nuit, elle avait l'apparence du feu. Et selon que la nuée se levait de dessus la tente, après cela, les fils d'Israël partaient. Et au lieu où la nuée demeurait, là les fils d'Israël campaient. Au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël partaient, et au commandement de l'Éternel, ils campaient. Pendant tous les jours que la nuée demeurait sur le tabernacle, ils campaient. Et si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d'Israël gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder et ne partaient pas. Et s'il arrivait que la nuée fût sur le tabernacle peu de jours, ils campaient au commandement de l'Éternel. Et au commandement de l'Éternel, ils partaient. Et s'il arrivait que la nuée y fût depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se leva au matin, alors ils partaient. Ou si, après un jour et une nuit, la nuée se levait, ils partaient. Ou si la nuée prolongeait sa demeure pendant 2 jours, ou 1 mois, ou beaucoup de jours sur le tabernacle pour y demeurer, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas. Mais quand elle se levait, ils partaient. Au commandement de l'Éternel, ils campaient, et au commandement de l'Éternel, ils partaient. Ils gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder, selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Versets 15 à 23. Il serait impossible de concevoir un tableau plus admirable de la dépendance absolue de la direction divine et de la soumission à cette direction que celle qui nous est présentée dans ce paragraphe. Il n'y avait pas une empreinte de pas ou une borne dans tout ce grand et affreux désert. Il était donc inutile de chercher aucune direction auprès de ceux qui y avaient passé précédemment. Les fils d'Israël devaient compter entièrement sur Dieu pour chaque pas du chemin. Ils devaient continuellement s'attendre à lui. Ce serait intolérable pour un esprit insoumis ou une volonté non brisée. Mais pour une âme qui connaît et aime Dieu, qui se confie et prend son plaisir en lui, rien ne saurait être plus profondément béni. Voici la clé de tout le sujet. Dieu est-il connu, aimé, et se confie-t-on en lui? S'il en est ainsi, le cœur se réjouira dans la dépendance la plus absolue de lui. Sinon, une telle dépendance serait absolument insupportable. L'homme non régénéré aime à se dire indépendant, il aime à se figurer qu'il est libre, il aime à croire qu'il peut faire ce qui lui convient, aller où il veut, dire ce qui lui plaît. Hélas, c'est là une pure illusion. L'homme n'est pas libre. Il est l'esclave de Satan. Il y a maintenant près de 6 000 ans qu'il s'est livré lui-même entre les mains de ce grand propriétaire d'esclaves, qu'il a toujours tenu dès lors et qui le tient encore. Oui, Satan tient l'homme naturel, l'inconverti, l'impénitent dans une terrible servitude. Il lui a lié les pieds et les mains de chaînes et de fer qui ne sont pas vus sous leur véritable aspect à cause de la dorure dont il les a artificiellement recouverts. Satan gouverne l'homme au moyen de ses convoitises, de ses passions et de ses plaisirs. Il produit dans le cœur des désirs qu'il satisfait ensuite par les choses qui sont dans le monde, et l'homme s'imagine vraiment être libre parce qu'il peut satisfaire ses désirs. Mais c'est une déplorable erreur qui tôt ou tard sera démontrée telle. Il n'est d'autre liberté que celle dont le Christ gratifie ses rachetés. C'est lui qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et encore, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 32-36. Voilà la vraie liberté. C'est la liberté que la nouvelle nature trouve en marchant par l'Esprit et en faisant ce qui est agréable à Dieu. Le service du Seigneur est la parfaite liberté. Mais ce service, dans tous ses détails, implique la plus entière dépendance du Dieu vivant. Il en fut toujours ainsi chez le seul vrai et parfait serviteur qui ait foulé cette terre. Il fut toujours dépendant. Chacun de ses mouvements, chacun de ses actes, chacune de ses paroles, tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il ne faisait pas, tout était le fruit de la plus absolue dépendance de Dieu et de la plus entière soumission. Il marchait quand Dieu voulait qu'il marchât et il s'arrêtait quand Dieu le voulait. Il parlait ou gardait le silence selon que Dieu le trouvait bon. Tel fut Jésus quand il vécut dans ce monde, et nous, comme participants de sa nature, de sa vie et ayant son esprit demeurant en nous, nous sommes appelés à marcher sur ses traces et à vivre d'une vie de dépendance de Dieu de jour en jour. Nous avons à la fin de notre chapitre un type pittoresque et beau de cette vie de dépendance dans une de ses phases, l'Israël de Dieu. Le camp dans le désert, cette armée de pèlerins suivant le mouvement de la nuit. Ils devaient regarder en haut pour leur direction. C'est là le propre de l'homme. Il fut formé pour tourner sa face en haut, en contraste avec l'animal qui est formé pour regarder en bas. Israël ne pouvait pas faire des plans. Il ne pouvait jamais dire « Demain nous irons à tel endroit ». Il dépendait entièrement du mouvement de la nuit. Ainsi en est-il pour Israël, et ainsi en doit-il être pour nous. Nous passons à travers un impraticable désert, un désert moral où il n'y a absolument pas de chemin. Nous ne saurions comment marcher, et nous ne saurions pas où aller si nous n'avions pas cette expression des plus précieuses, des plus profondes, des plus compréhensibles, sortie de la bouche de notre bien-aimé Sauveur, « Je suis le chemin ». Voilà la direction divine infaillible, nous avons à la suivre. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. C'est la direction vivante. Ce n'est pas en agissant selon la lettre de certaines ordonnances ou de certaines règles. C'est en suivant un Christ vivant, en marchant comme il a marché, en faisant ce qu'il a fait, en imitant son exemple en toutes choses. Telle est la marche chrétienne, l'action chrétienne. Elle consiste à tenir les yeux fixés sur Jésus, à avoir les formes et les traits de son caractère imprimés dans notre nouvelle nature et à les refléter ou les reproduire dans notre vie et dans notre conduite journalière. Or, cela impliquera assurément le complet renoncement à notre volonté propre, à nos plans, à notre propre direction. Nous devons suivre la nuée, nous devons nous attendre toujours, nous attendre seulement à Dieu. Nous ne pouvons pas dire « nous irons ici ou là, nous ferons ceci ou cela demain ou la semaine prochaine ». Tous nos mouvements doivent être placés sous la sauvegarde régulatrice de cette seule phrase importante, souvent, hélas, écrite ou proférée légèrement par nous, « si le Seigneur le veut ». Puissions-nous comprendre mieux toutes ces choses? Plaise à Dieu que nous connaissions plus exactement le sens de la direction divine. Combien souvent nous nous imaginons légèrement et nous affirmons avec assurance que la nuée marche dans la direction même qui s'accorde avec nos inclinations. Voulons-nous faire une certaine chose ou suivre une certaine marche? Alors nous cherchons à nous persuader que notre volonté est celle de Dieu. Ainsi, au lieu d'être guidés par Dieu, nous nous séduisons nous-mêmes. Notre volonté n'est pas brisée et par conséquent nous ne pouvons pas être dirigés droitement. Car le vrai secret pour être guidé droitement, guidé par Dieu, c'est d'avoir notre propre volonté complètement soumise. Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires, et il enseignera sa voie aux débonnaires. Psaume 25, verset 9. Et encore, je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Mais pesons surtout cet avertissement-ci. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Psaume 32, verset 9. Si notre face est tournée en haut pour saisir le mouvement de l'œil de Dieu, nous n'aurons pas besoin du mors et du frein. Mais c'est précisément ceci que nous manquons si tristement. Nous ne vivons pas assez près de Dieu pour discerner le mouvement de son œil. Notre volonté est à l'œuvre, nous voulons suivre notre propre chemin. De là vient que nous avons à en moissonner les fruits amers. C'est ce qui arriva à Jonas. Il lui avait été ordonné d'aller à Ninive, mais il voulut aller à Tarsis. Et les circonstances semblaient le favoriser. La Providence paraissait lui indiquer la direction que sa volonté avait choisie. Mais, hélas, il devait trouver sa place dans le ventre de la baleine, oui, dans le sein du Shéol, lui-même, où les algues ont enveloppé sa tête. C'est là qu'il apprit l'amertume qu'il y a à suivre sa volonté. Il dut être instruit dans les profondeurs de l'océan sur le vrai sens du mors et de la bride, parce qu'il n'avait pas voulu suivre la direction plus douce de l'œil. Mais notre Dieu est si miséricordieux, si tendre, si patient. Il veut enseigner et guider ses pauvres enfants faibles et égarés. Il ne s'épargne aucune peine pour nous. Il s'occupe continuellement de nous afin que nous soyons gardés de nos propres voies qui sont pleines d'épines et de ronces, et que nous marchions dans ses voies qui sont agréables et dans ses sentiers qui sont paix. Proverbe 3, verset 17. Il n'est rien dans tout le monde qui soit plus profondément béni que de mener une vie de dépendance habituelle de Dieu, que de dépendre de lui de moment en moment, de s'attendre et de s'attacher fortement à lui pour toute chose. Avoir toutes ses sources en lui, c'est le vrai secret de la paix et d'une sainte dépendance. L'âme qui peut dire en vérité « toutes mes sources sont en toi » est élevée au-dessus de toute confiance en la créature, au-dessus des espérances humaines et des attentes terrestres. Ce n'est pas que Dieu ne se serve pas des créatures de mille manières pour nous assister. Nous ne voulons pas du tout dire cela. Il emploie la créature, mais si nous nous appuyons sur elle plutôt que sur lui, nous éprouverons bientôt dans nos âmes de la maigreur et de la stérilité. Il y a une immense différence entre l'usage que Dieu fait de la créature pour nous bénir et notre appui sur la créature à l'exclusion de Dieu. Dans un cas, nous sommes bénis et il est glorifié, dans l'autre, nous sommes désappointés et il est déshonoré. Il est bon que l'âme considère sérieusement cette distinction. Nous croyons qu'elle est constamment négligée. Nous nous imaginons souvent que nous nous appuyons sur Dieu et que nous regardons à Dieu, tandis que, en réalité, si nous voulions seulement aller droitement au fond des choses et nous juger dans la présence immédiate de Dieu, nous trouverions en nous une effrayante quantité du levain de la confiance en la créature. Combien souvent nous parlons de vivre par la foi et de nous confier qu'en Dieu, quand, en même temps, si nous sondions les profondeurs de nos cœurs, nous y trouverions une mesure abondante de dépendance des circonstances, de considération des causes secondes et de tant de sentiments analogues. Lecteurs chrétiens, pensons-y sérieusement. Veillons à ce que notre œil soit fixé sur le seul Dieu vivant et non sur l'homme dont le souffle est en ses narines. Attendons-nous à lui, attendons patiemment, constamment. Si nous manquons de quoi que ce soit, adressons-nous directement et simplement à lui. Sentons-nous le besoin de discerner notre chemin pour savoir de quel côté nous devons nous tourner, quel sentier nous devons suivre. Rappelons-nous qu'il a dit « Je suis le chemin ». Suivons-le, il rendra tout clair, lumineux et certain. Il ne peut y avoir de ténèbres, de perplexité, d'incertitude si nous le suivons, car il a dit, et nous sommes tenus de le croire, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». C'est pourquoi, si nous sommes dans les ténèbres, il est certain que nous ne le suivons pas. Aucune ténèbre ne peut jamais s'arrêter sur ce sentier béni où Dieu conduit tout du long ceux qui cherchent à suivre Jésus avec un œil saint. Mais celui qui scruterait minutieusement ces lignes pourrait dire, ou du moins pourrait être disposé à dire, « Malgré cela, je suis dans l'embarras quant au chemin que je dois prendre, je ne sais réellement pas quel côté me tourner ni quelle marche suivre. » Si c'était là le langage du lecteur, nous lui poserions simplement cette seule question, « Suivez-vous Jésus ?» Si vous le faites, vous ne pouvez être dans l'embarras. Suivez-vous la nuée ? Si vous la suivez, votre chemin est aussi clairement tracé que Dieu peut le faire. C'est là que se trouve la clé de toute la difficulté. L'embarras ou l'incertitude est très souvent le fruit du travail de la volonté. Nous sommes entraînés à faire ce que Dieu ne veut pas du tout que nous fassions, à aller où Dieu ne veut pas que nous allions. Nous le prions à cet effet et nous ne recevons point de réponse. Nous prions de nouveau et toujours point de réponse. D'où vient cela? Du simple fait que Dieu veut que nous nous tenions tranquilles, que nous demeurions précisément là où nous sommes. C'est pourquoi, au lieu de nous creuser l'esprit et de nous tourmenter sur ce que nous devrions faire, attendons-nous simplement à Dieu. Voilà le secret de la paix et d'une heureuse communion. Si un Israélite dans le désert s'était mis en tête de faire quelques mouvements indépendamment de Jéhovah, s'il avait pris sur lui de partir quand la nuit était au repos ou de s'arrêter quand la nuit était en marche, nous pouvons aisément comprendre quel en aurait été le résultat. Or, il en sera toujours ainsi de nous. Si nous marchons quand nous devrions demeurer en repos, ou si nous nous reposons quand nous devrions marcher, nous n'aurons pas avec nous la présence de Dieu. Au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël campaient, et au commandement de l'Éternel, ils partaient. Ils étaient maintenus dans une attente continuelle de Dieu, position des plus bénies que quelqu'un puisse occuper. Mais il faut l'occuper avant d'en pouvoir savourer la bénédiction. C'est une réalité à connaître et non pas une pure théorie dont on parle. Qu'il nous soit donné de le prouver tout le long de notre voyage.